France Info.
Des fans du concours, la réponse à 6h20 avec le responsable de leur association Eurofan. Il est 6h. Après une semaine de guerre en Iran, le prix du baril de pétrole a grimpé de plus de 30%. Pas de répit dans les frappes israéliennes et américaines sur l'Iran, ni dans celles d'Israël contre le Hezbollah au Liban. Donald Trump affirme qu'il attend désormais une capitulation totale de Téhéran. Dans le reste de l'actualité, Tariq Ramadan, absent de son procès pour viol depuis lundi à Paris, est désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Y a-t-il une relation entre certains cancers chez les enfants et la pollution environnementale? Des études sont lancées pour l'établir autour de La Rochelle, où des cas atypiques ont été recensés. Et le football, avec le faux pas du PSG, battu à domicile au Parc des Princes, 3-1 par Monaco. Pas très bon signe à 5 jours du rendez-vous européen face à Chelsea. Après une semaine de guerre en Iran, l'armée israélienne annonce ce matin qu'elle lance des frappes de grande envergure sur Téhéran. Elle affirme viser des cibles gouvernementales. Annonce faite après la détection d'une nouvelle salve de tirs de missiles iraniens en direction d'Israël. Et ce matin, des explosions viennent d'être entendues à Jérusalem, Dubaï ou encore à Manama. Dans le contexte de la guerre en Iran, les États-Unis viennent d'approuver la vente à Israël de 12 000 bombes de 470 kilos. Il y en a pour une valeur de plus de 150 millions de dollars. Et Donald Trump affirme donc qu'il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une capitulation sans condition. Dans le sud du Liban, les frappes israéliennes et les tirs de roquettes du Hezbollah continuent de se répondre. Plusieurs villages libanais ont encore été touchés hier. Exemple avec l'envoyé spécial de France Info, Étienne Monin. Il est à Marjayoun, à 10 km de la frontière israélienne.
This is Israel.
Dans ce village, l'Oftala Daer est l'une des vigies. Il est correspondant pour la chaîne libanaise LBC. Il passe ses journées sur le toit de sa maison pour filmer les combats.
Hier, j'ai vu un tank. Et ce matin aussi, je peux vous montrer.
Ce journaliste fait partie des derniers habitants du secteur. Autour de lui, la rue est assez vide. Il est chrétien. Il estime que cette guerre n'est pas la sienne, qu'il n'est pas menacé.
On n'est pas des cibles. On est en sécurité. Les Israéliens savent tout. On n'est pas impliqués dans cette guerre.
Hier, 200 personnes se sont rassemblées dans une paroisse. Les chefs des différentes églises avaient un message à faire passer, dit le vicaire Antonio Sfara.
Tout le monde doit rester dans son village, rester ancré dans l'histoire, dans la géographie aussi.
Ces chrétiens se considèrent comme le dernier rempart face au pouvoir du Hezbollah dans ce secteur. Ils craignent de tout perdre s'ils abandonnent le terrain, explique Jacqueline Caillou.
Si on va vider les maisons, les villages, alors Israël et Hezbollah vont être ici dans les lieux vides et faire des combats. Par conséquent, toutes les maisons, tous les biens, tous les terrains vont être détruits.
Et ces derniers chrétiens du Sud sont prêts à rester, y compris sous occupation israélienne.
Étienne Monin, l'envoyé spécial de France Info au Liban, avec Martin Troadec pour les moyens techniques. Parmi les conséquences de la guerre en Iran, les cours du pétrole se sont envolés de plus de 30% en une semaine. Pour le gaz, selon le ministère de l'économie, l'impact de la guerre se fera sentir sur les factures pour les consommateurs qui n'ont pas de contrat en offre à prix fixe à partir du 1er mai. Environ 7 millions de foyers concernés, avec une hausse potentielle chiffrée à moins de 10 euros par mois. L'agence de notation Fitch maintient la note de la dette souveraine de la France à A+, avec perspective stable, en soulignant la taille et la diversification de son économie, en relevant aussi que le contexte politique complique l'assainissement budgétaire. Fitch, qui avait en septembre dernier abaissé d'un cran la note de la France. Il est 6h04. L'islamologue suisse Tariq Ramadan est désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt sur ordre de la Cour criminelle départementale de Paris. C'est la conséquence de son absence depuis l'ouverture de son procès lundi pour des viols sur 3 femmes en France entre 2009 et 2016. La Cour criminelle de Paris estime qu'il n'a pas de raison valable à ne pas se présenter. Elle décide de le juger par défaut, donc en son absence. Ses avocats ont quitté la salle pour protester et Mathilde Le Maire y était pour France Info.
Selon ses avocats, le prédicateur de 63 ans ne pouvait se présenter à son procès lundi. Il souffre de sclérose en plaques, subissait une poussée, avait été hospitalisé 2 jours avant à Genève. Pour eux, il fallait absolument renvoyer l'audience à une date ultérieure. La présidente de la cour criminelle a préféré ordonner une expertise à 2 neurologues. Dans leur rapport rendu hier, les experts parlent de stabilité de la maladie. Aucun signe de poussée récente. Tariq Ramadan peut comparaître, conclut-il. L'avocat général a fustigé la dérobade, la lâcheté de l'islamologue qui a mis, je cite, « le lac Léman » entre la justice française et lui parce qu'il ne veut pas être jugé. La cour a estimé que Tariq Ramadan n'avait aucune raison valable d'être absent. Son procès a donc finalement débuté en son absence. Ses 4 avocats ont dénoncé une parodie de justice, un mandat d'arrêt scandaleux. Ils ont quitté l'audience. En Suisse, où il a été condamné définitivement dans une autre affaire de viol, Tariq Ramadan doit purger une peine d'1 an de prison. Il ne devait le report de son incarcération qu'à la tenue de son procès en France. On verra ce que décide la justice suisse ces prochains jours.
Mathilde Lemaire du service police-justice de France Info. Y a-t-il une relation entre certains cancers chez les enfants et la pollution environnementale avec des clusters atypiques de cancers pédiatriques autour de La Rochelle? Le préfet de Charente-Maritime vient de lancer ExpoScan, des études qui vont durer 3 ans pour déterminer s'il existe un rapport entre la maladie et certaines substances réputées dangereuses. Une démarche que réclamaient des parents depuis longtemps à La Rochelle pour France Info, Gérald Paris.
Le projet sera encadré par un consortium de scientifiques. Jusqu'en 2028, il y aura notamment des prélèvements d'eau, des sols, mais aussi de l'air. Une approche scientifique pour des données consolidées, c'est ce que demandait l'association Avenir Santé Environnement depuis très longtemps. Franck Rinchet-Girolet, porte-parole de l'association, son fils avait développé un cancer.
C'est ce qu'on aurait aimé voir se mettre en place il y a 8 ans, quand la surincidence de cancer de Saint-Rogatien a été documentée. Et il nous a fallu quelque part 8 ans pour travailler le territoire, travailler avec les élus, travailler avec les autres associations pour essayer d'obtenir quelque chose de cohérent en matière de santé environnementale et de recherche sur le territoire.
Il y a 2 ans, justement pour alerter les pouvoirs publics, plusieurs associations avaient réalisé une étude sur des enfants de l'agglomération de 3 à 17 ans.
Nous, on a anglais sur les pesticides puisqu'on répondait à une inquiétude citoyenne sur le territoire. Sur une cohorte de 72 enfants, on a mis en évidence la présence de 45 molécules dans les cheveux et 14 dans les urines. Et ça a permis de lancer l'alerte sur le territoire en disant effectivement, les questions sont légitimes, il faut aller plus loin et créer un projet scientifique sur le territoire.
À l'époque, seuls les pesticides étaient visés. Cette fois, cette étude lancée par l'État ira plus loin, capable par exemple de repérer aussi des métaux lourds comme le plomb, le mercure ou l'arsenic.
Gérald de Paris, d'ici La Rochelle, pour France Info. Il est 6h07, le football avec le faux pas du PSG battu à domicile au Parc des Princes 3-1 par Monaco. Pas très bon à 5 jours du match aller des 8e de finale face à Chelsea en Ligue des Champions. C'est la 4e défaite parisienne en championnat cette saison, la première à domicile. C'était le match d'ouverture de la 25e journée en Ligue 1. Soirée de football vécue au Parc des Princes pour France Info par Nicolas Perronnet.
Le public du Parc des Princes a beau être gâté et indulgent, quelques sifflets accompagnent en fin de match la sortie des joueurs. Pas une bronca, mais clairement un signe d'inquiétude. Après cette gifle reçue à l'un des pires moments de la saison, le défenseur parisien Nuno Mendes reconnaît qu'elle secoue un peu.
On n'était pas à notre niveau, on n'a pas fait ce qu'on fait normalement. Il faut travailler, il faut se reposer aussi pour arriver mercredi.
Mercredi, le rendez-vous Ligue des Champions face à Chelsea. L'un des virages importants de la saison que le PSG aborde donc en dérapage, pas vraiment contrôlé. Pas loin de la crise de confiance, constate l'entraîneur Luis Enrique.
Ce n'est pas le meilleur résultat pour arriver à la Champions League. Nous sommes conscients de ça. C'est clair que la confiance, ce n'est pas une chose que tu achètes à monoprix. On est clairement en difficulté, mais il faut avoir de l'espérance d'échanger ça et c'est ce que j'y pense pour les prochains matchs.
Avant de penser à un nouveau printemps européen, le Paris Saint-Germain va donc devoir déjà passer l'hiver et encore plus depuis hier soir, le doute est permis.
Nicolas Perronnet au Parc des Princes pour France Info. Le rugby, c'est le nouveau rendez-vous pour les Bleus aujourd'hui, toujours en lice pour un nouveau grand chelem dans le tournoi des Six Nations. Le match face à l'Écosse cet après-midi à Édimbourg. Le coup d'envoi à 15h10. Ce sera en direct sur France Info. On suivra aussi les premières épreuves des Jeux d'hiver paralympiques de Milan-Cortina avec notamment le paraski alpin ce matin et le para-biathlon à la mi-journée. Et tout ça, on en reparle tout à l'heure dans l'Infosport. Tout de suite à 6h09, la météo avec Sophie Bria. Bonjour Sophie.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour
et
à tous.
Et le soleil, on le trouve à l'est du pays aujourd'hui.
Oui, de l'Alsace à la Normandie et du bassin parisien aux Ardennes et aux Alpes, avec un ciel plus voilé entre la baie de Somme et le Lyonnais, qui est lié au sable du Sahara, hein, qui est transporté par ce flux de sud en altitude. Ailleurs, le temps est encore perturbé, avec nuages et averses qui circulent de la Bretagne à la Normandie, jusqu'aux Pyrénées, du Massif central à la région PACA et la Corse. Quelques éclaircies font quand même leur apparition entre le Poitou-Charentes et la région PACA, et le golfe du Lion est encore sous un ciel bien nuageux et pluvieux. Les températures matinales sont comprises entre 8 et 14 degrés. Vous avez 9 degrés à Lyon, 11 à Paris et 13 degrés à Bordeaux. Un peu plus frais à l'est, de 2 à 6, 2 à Épinal et 6 à Belfort. Cet après-midi, la douceur est encore bien présente et il fait de 11 à 20 degrés sur tout le pays.
Sophie Bria.
France Info le week-end.
Le billet science.
Bonjour, c'est Bill François. Je vous retrouve tous les week-ends pour vous partager une nouvelle découverte sur le monde, vous raconter une merveille de la nature ou une avancée décisive de la science.
Tous les week-ends, retrouvez le billet science, les découvertes de Bill François, à 8h25 et 10h50 sur France Info.
Il est 6h10, on fait le point sur France Info après une semaine de guerre en Iran. Dans un instant, l'analyse du général Dominique Trinquant, invité de France Info. On sera aussi avec les envoyés spéciaux de France Info dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban.
France Info, 6h-7h, Jean-Christophe Martin.
L'armée israélienne annonce avoir lancé ce matin des frappes de grande envergure sur Téhéran. Hier, elle avait intensifié ses frappes au Liban, notamment sur la banlieue sud de Beyrouth, fief des islamistes du Hezbollah, alliés de Téhéran. Des tirs également contre la FINUL, la mission de l'ONU, contre une position dans le sud du Liban. Deux casques bleus ghanéens ont été blessés. Le président libanais accuse Israël. Emmanuel Macron, lui, dénonce une attaque inacceptable. Pour le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies à New York, c'est un événement grave et l'ONU n'a que peu de marge de manœuvre dans ce genre de situation.
Bien sûr, c'est grave. L'attaque d'une force de maintien de la paix mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un événement grave, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Malheureusement, l'armée israélienne a régulièrement attaqué des casques bleus qui se trouvent dans la zone d'action de l'armée israélienne. Et donc, donc je pense qu'il n'y aura pas de conséquences dramatiques pour ça, parce que ça n'est pas la première fois que ça arrive. Israël fait la guerre dans le sud Liban, la FINUL est dans le sud Liban, et là, pour accompagner l'armée libanaise dans le désarmement du Hezbollah, en application de la résolution 1701 votée en 2006 et portée en particulier par la France, et l'action israélienne se fait plus dure parce qu'elle trouve que le désarmement du Hezbollah ne va pas assez vite. Il devait être terminé pour la fin de l'année 2026, mais je pense que les Israéliens profitent de l'occasion et de l'erreur du Hezbollah qui a envoyé 3 roquettes il y a quelques jours pour essayer de faire le travail à la place de l'armée libanaise.
Le président libanais Joseph Aoun, qui a condamné ces frappes, appelle tous les pays et les Nations Unies aussi à intervenir pour mettre fin à cette dangereuse escalade israélienne. Ce sont ces termes. Que peuvent faire, selon vous, les Nations Unies ?
Écoutez, pas grand-chose. Parce que, comme vous le savez, les Nations Unies, les décisions des Nations Unies repose essentiellement sur le Conseil de sécurité, où les 5 permanents ont le droit de veto. Et donc, aujourd'hui, quand il s'agit de l'Ukraine, la Russie met un droit de veto. Quand il s'agissait de Gaza, les États-Unis mettent un droit de veto. Et je pense que quand il s'agira du Sud-Liban, les États-Unis mettront un droit de veto aussi. Donc, les Nations Unies sont un peu embêtées dans cette affaire-là, manquant d'un outil qui lui permette de dicter la directive de ce qui se passe au Sud-Liban. Ça veut dire que les casques bleus qui sont là-bas essayent de faire leur travail, de se protéger, et puis s'il y a une offensive israélienne, malheureusement, ils ne pourront pas faire grand-chose contre l'armée israélienne.
Est-ce qu'ils peuvent riposter d'une manière ou d'une autre? Quelles sont leurs capacités d'intervention?
Alors ça s'appelle la légitime défense, ils peuvent tout à fait répliquer si on le tire dessus, mais les moyens sont disproportionnés. Je citais le cas d'un drone israélien qui avait survolé une patrouille française qui avait été détruit. Voilà, mais lorsque on reçoit des tirs d'artillerie ou des tirs de missiles, évidemment que la FINUL n'a pas les moyens de répliquer contre l'armée israélienne.
Général Dominique Trinquant, quand Israël dit, par l'intermédiaire de son chef d'état-major, que la guerre entre dans une nouvelle phase, comment analysez-vous la situation? De quelle phase parle-t-on?
Alors là, on est bien sûr dans les phases militaires, c'est-à-dire que la phase de conquête du siècle, du conquête du ciel est terminée. Ils considèrent, les Israéliens, les Américains, que maintenant ils peuvent voler un peu partout et frapper comme ils le veulent. Ça a une conséquence importante sur les stocks de munitions, parce que ça veut dire qu'ils peuvent utiliser des munitions beaucoup moins sophistiquées. Le secrétaire d'État américain le signalait, maintenant ils vont utiliser des bombes lisses qui ont des guidages terminaux, mais qui sont beaucoup moins coûteuses que les missiles tirés à longue distance. Donc ça, c'est la fin de la première phase qui permet des frappes beaucoup plus massive. Il y a d'ailleurs des B-52 qui sont rentrés en action, de détruire plus à fond le dispositif iranien, en attendant une deuxième phase qui est peut-être plus, moins militaire et plus politique, c'est qui va intervenir en Iran? Les manifestants? Les Kurdes? C'est un renversement au sein de l'armée iranienne. C'est la question qui est posée aujourd'hui, parce que évidemment que le changement de régime voulu par M. Netanyahou ne pourra pas arriver simplement par des bombardements. Il faudra forcément qu'il y ait une action à l'intérieur de l'Iran.
Le général Dominique Trinquant, il répondait sur France Info à Julien Langlais. Il est 6h16. Israël poursuit donc ce matin ses frappes sur le sud du Liban. Depuis que le Hezbollah est entré en guerre lundi pour soutenir l'Iran, l'armée israélienne confirme sa volonté de mettre en place une zone tampon pour protéger les civils israéliens proches de la frontière libanaise. Et dans la dernière grande ville israélienne avant la frontière, Kiryat Shmona, à l'extrême nord du pays, les Israéliens soutiennent majoritairement cette stratégie, comme Agathe Mahué l'a constaté sur place pour France Info.
Ce n'est pas du tout une ville fantôme, malgré la proximité de la guerre. Kiryat Shmona est animée. Ça va, dit Yaakov. Ce n'est pas comme quand le Hezbollah était juste de l'autre côté de la frontière. La milice chiite libanaise est affaiblie. Tous le disent ici. Les habitants se sentent moins menacés. Musique à fond devant l'épicerie, David trouve qu'il faut continuer le travail. Il salue l'incursion terrestre israélienne en cours au sud Liban.
C'est nécessaire. Je ne sais pas si on peut se débarrasser du Hezbollah pour toujours, mais au moins qu'on ait la paix pour 10 ou 20 ans.
Chez le coiffeur, à côté, deux soldats patientent pour une coupe de cheveux. Les militaires sont nombreux. Ophir fait partie des 100 000 réservistes rappelés pour l'occasion. Il dit que tout ça peut durer quelques semaines ou beaucoup plus longtemps, personne ne sait.
J'ai vu milliers de soldats.
Johan, lui, observe depuis plusieurs jours.
50, 100 camions avec des tanks.
Il est israélien, né d'une mère française.
On va être tous contents que ça va se terminer parce que personne ne veut la guerre. On veut tout peace. La paix.
Tout le monde ici veut la paix, dit-il, pressé de tourner la page du Hezbollah, comme tous les habitants de Kiryat Shmona.
Agathe Mahué, l'une des envoyées spéciales de France Info en Israël, avec Jérémy Thuil pour les moyens techniques et Alexandra Vardy. Une semaine après le début de la guerre en Iran, les Français continuent aussi de rentrer en France comme ils peuvent. Des rapatriements par avion militaire, par des vols affrétés par la France ou à bord d'un des rares avions commerciaux qui peuvent encore décoller. Beaucoup reviennent de Dubaï, cette ville moderne des Émirats Arabes Unis, d'habitude paisible lieu de vacances, devenu une cible pour les drones et les missiles iraniens. Hier, après une semaine d'angoisse, ils étaient des dizaines, ces Français, à atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle après une semaine infernale. Et Thomas Vinclair les a rencontrés pour France Info.
Ce voyage, Marie-Ève et Philippe en rêvaient.
Bizarrement, on était en voyage de noces.
Oui, voyage de noces. Du rêve au cauchemar. Non, ben après, on a eu beaucoup de chance de récupérer ce vol-là, mais il en reste encore beaucoup sur place et on espère pour eux qu'ils rentreront bientôt.
Cette semaine, elle restera gravée à jamais pour ce couple.
On en retiendra le fait de se dire que du jour au lendemain, tout peut arriver, que finalement, on est à l'abri de rien.
On a eu peur, on s'est confiné.
Toute cette semaine, Tara l'a passée sur son téléphone. Elle s'est attachée à rassurer ses proches plusieurs fois par jour.
Pour vous dire, il y en a, ils nous allument des bougies pour nous, pour qu'on rentre en chair et en os.
Alors même si l'hôtel, la piscine, les restaurants sont restés ouverts, de quoi donner un air de vacances prolongées, elle commence désormais à réaliser ce qu'elle a vécu.
Ça fait peur, hein. Ça fait peur. C'est rien du tout, mais ça fait quand même un peu peur. Parce qu'on est confronté à des guerres, à des choses comme ça, c'est ça qui fait peur. On voit la réalité en face.
Mamadou, lui, est plus marqué. Les drones, les missiles hantent désormais ses nuits.
C'est le fait d'entendre, de voir, d'entendre les explosions, de les voir, de recevoir des messages d'alerte. Là encore, encore hier soir, on en a reçu un. C'est pas quelque chose de commun et de rassurant.
Son père, Omar, le prend dans ses bras, car pour ses proches aussi, cette semaine a été un cauchemar.
Impossible de dormir, hein, faut 24 sur 24. Être en train de regarder tout ce qu'ils allaient dire sur le sujet, comment la situation évoluait sur place. Toujours en espérant que les choses se passent au mieux pour lui, quoi. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. L'inquiétude grandissait de plus en plus. La situation devenait très compliquée à vivre. C'était comme si on y était, hein.
Pour s'en sortir et rentrer, tous ont dû trouver le précieux sésame, la chasse aux billets d'avion. C'est ce qui a rythmé la semaine de tous ces Français, avec un trafic aérien divisé par 10 et seulement 106 décollages de Dubaï par jour. Il a fallu être à l'affût. Mamadou, lui, a pu compter sur l'aide de sa sœur.
Pendant la nuit, ma sœur, ici en France, et moi-même à Dubaï, On se connectait et c'était le premier qui réussissait à avoir le billet parce que c'est concurrence du coup internationale.
Avec des prix qui se sont envolés, car si un billet Dubaï-Paris coûtait en moyenne 370 euros avant le début de la guerre, certains Français ont dû débourser 1200 voire 3000 euros pour pouvoir rentrer.
Thomas Vinclair avec ses Français de retour de Dubaï à l'aéroport Charles de Gaulle. Et elle s'appelle Monroe, elle a 17 ans. Elle va représenter la France à l'Eurovision. Qu'en pensent les fans du concours? On voit ça dans un instant. D'abord, l'info en une minute.
BMW. 3 notifications, 10 postes, 5 alertes. Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M-Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M-Sport, prenez le volant de votre BMW dès 290 euros par mois, sans apport.
Offre valable pour une BMW 1 16 M-Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Pensez à covoiturer.
France Info. 6h-7h.
L'essentiel de l'actualité à 6h22, c'est avec Philippine Thibaudeau. Bonjour Philippine.
Et bonjour Jean-Christophe.
Le premier titre de ce samedi, de nouvelles explosions cette nuit au 8e jour de la guerre au Moyen-Orient.
À Jérusalem, à Dubaï, à Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis, des alertes aux missiles iraniens ont retenti. Israël, de son côté, bombarde l'Iran et sa capitale Téhéran. Donald Trump demande sa capitulation. Conséquence de la guerre, les cours du baril de pétrole s'envolent. En une semaine, il a bondi de 35%. Répercussions aussi sur la facture de gaz. Selon Bercy, la hausse se ressentira à partir du 1er mai. Elle concernera les consommateurs français qui n'ont pas de contrat en offre à prix fixe, soit 60% de la population. Tariq Ramadan, sous mandat d'arrêt international, absent de son procès pour viol cette semaine parce qu'hospitalisé, la cour criminelle de Paris estime qu'il n'avait aucune raison médicale valable. Il sera donc jugé même en son absence et à huis clos à la demande d'une des parties civiles. Et allez, c'est parti pour les Jeux Paralympiques. La cérémonie d'ouverture hier, marquée par les huées du public à l'arrivée des athlètes russes et biélorusses, une première depuis la guerre en Ukraine. 10 jours de compétition qui commencent aujourd'hui. Des chances de médailles pour la délégation française en descente à partir de 9h30 avec Arthur Baucher et Aurélie Richard.
France Info.
C'est donc la chanteuse Monroe qui représentera la France à l'Eurovision à Vienne en mai prochain. La jeune gagnante de l'émission Prodige a seulement 17 ans. Elle interprétera sa chanson « Regarde ». Alors qu'en pense Benoît Blazic, secrétaire d'Eurofans, les fans français et francophones des concours de l'Eurovision, on lui a posé la question.
Les avis sont un peu partagés sur les réseaux. Je vous avoue que sur les différentes boucles auxquelles j'ai accès, il y a du pour, il y a du contre. Moi, je trouve que c'est une chanson audacieuse. Une candidature osée, parce que osée au sens où on n'a pas encore entendu ce genre de chanson purement lyrique, j'ai bien dit purement lyrique, à l'Eurovision. Et certes, en 2011, on avait envoyé Amaury Vassili et son Sognou. On était énormes favoris, on a terminé 15e du concours, mais il y avait un peu de pop. Et puis, si on essaie de la comparer aux deux derniers vainqueurs, que ce soit Nemo ou Gigi pour l'Autriche, eh bien, oui, ok, il y a des petites ressemblances dans cette idée de vocalise et autres, mais c'est pas purement du lyrique.
Qu'est-ce qui manque à la France chaque année pour remporter ce concours? Qu'est-ce qui fait la différence à chaque fois? Pourquoi il nous manque ce petit plus?
Ah, ce petit plus, bah, parfois on a envoyé des balades.
C'est pas que les votes quand même, c'est pas que les votes.
Non, il n'y a pas que les votes. Il y a aussi parfois des candidatures qui sont un peu moins ambitieuses que d'autres. L'Eurovision, c'est un concours de l'instant. Il faut aimer la chanson. Il faut que le téléspectateur européen ait envie de voter aussi pour une chanson qu'il entend parfois une seule fois. Pour lui, il n'y a que le samedi, la finale. Et bon, c'est vrai que la France a la chance de participer puisqu'on fait partie du Big Five ou du Big Four cette année, on va dire, avec l'absence de l'Espagne. Mais c'est vraiment un coup de cœur. C'est comme ça que vote les spectateurs, je pense. Moi, je pense que la chanson de la France pour cette année, elle a ce potentiel de « Waouh, c'est quoi ça ?» Voilà. Elle va peut-être pas plaire à tous les publics, ce que je crains, mais néanmoins, ça va détonner.
Le secrétaire d'Eurofans, les fans français des concours de l'Eurovision, Benoît Blazy, qu'il répondait sur France Info à Julien Langlais. Et à 6h25, l'heure des experts cinéma, les sorties de la semaine, Matteo Mestracci avec Benjamin Fontaine.
Le marsupilami rebondit chaque semaine, toujours en tête du box-office avec plus de 4 millions d'entrées, mais peut-être qu'il sera rattrapé dans les prochains jours par Jumpers, le nouveau Pixar, qui démarre fort depuis mercredi. Bonjour Matteo Mestracci.
Bonjour Benjamin.
D'autres films sont sortis cette semaine et vous nous conseillez notamment la comédie Alter Ego de Nicolas et Bruno, avec un double Laurent Lafitte.
Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin.
Ah ouais, effectivement, il y a...
Vous êtes Alexandre, c'est ça?
Hein? Oui.
Non, je voulais vous dire qu'on va organiser un pot avec les voisins pour notre crémaillère. Donc vous êtes les bienvenus. Lundi soir, ça vous va?
Ouais, mais là, ça va. Non, c'est...
Nicolas Charlet et Laurent Lavaine, duo à qui l'on doit les fameux détournements messages à caractère informatif sur Canal+, ou La personne aux deux personnes, avec Daniel Auteuil et Alain Chabat. Ils nous présentent cette fois Alex, employé de bureau, un peu mou, qui voit arriver du jour au lendemain un nouveau voisin qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Sauf que, dit-il, c'est lui en mieux, plus riche, plus intelligent, plus sportif, plus charmant. Alex va sombrer dans la parano et avoir envie de se débarrasser de ce double encombrant. Nicolas et Bruno se sont beaucoup amusés à écrire et tourner tout ça.
Le spectateur se dit, mais attends, mais et moi si ça m'arrivait, quoi. C'est à la fois un cauchemar et en même temps un terrain de jeu et de rire dans lequel le spectateur va se marrer du début à la fin du film.
Bon, allez, Alex, excuse-toi s'il te plaît.
Je m'excuse.
Peut-être tu peux remercier Axel de t'avoir sauvé la vie, ça se fait.
Merci Axel de m'avoir sauvé la vie, c'est très gentil.
Bah non, c'est normal, hein.
Alex, il est face à une version idéalisée de lui-même, qu'il idéalise lui-même. Une version, en fait, Axel, pour lui, c'est un peu ce qu'il aurait pu être. Il incarne un peu tout ce qu'il a laissé de côté, sans vraiment s'en apercevoir au cours de sa vie, qui est tout à fait normale et heureuse jusqu'à présent. Et dès lors que cette espèce de profil Instagram sur pattes s'installe à côté de chez lui, c'est-à-dire lui de manière parfaite, ça devient un enfer, ça devient un cauchemar, quoi.
Je fais des chouquettes cuites sous la cendre. J'ai appris ça chez les Touaregs.
Bah ouais.
Au casting, on retrouve donc Laurent Lafitte qui se surpasse dans deux rôles différents et plusieurs scènes bluffantes avec ses deux personnages, Blanche Gardin, Olga Kurylenko et Marc Fraise, dans un film totalement déjanté et parfois sombre, mais qui devrait vous faire beaucoup rire.
Mais Laurent Lafitte récompensé du César du meilleur acteur la semaine dernière. Autre film français, Matteo, avec un peu d'humour aussi, même s'il parle d'un sujet très sérieux, les violences faites aux femmes. C'est La Maison des Femmes de Mélisa Godet, inspirée de l'histoire vraie de la Maison des Femmes de Saint-Denis aux portes de Paris.
Paris.
Établissement fondé en 2016, destiné aux femmes isolées, en difficulté ou victimes de violences, sexuelles ou conjugales, entouré d'un casting opulent, Karine Viard, Laetitia Doche, Oulaya Amamra, Eye Aïdara, Pierre Deladonchamp, Juliette Armanet et j'en passe, la réalisatrice Mélisa Godet nous propose plusieurs parcours qui se croisent, ceux des patientes et ceux des soignantes, et nous explique pourquoi elle a préféré le format de la fiction à celui du documentaire.
Moi, mon moyen d'expression, c'est la fiction. Je suis pas certaine d'être capable de réaliser un bon documentaire, à vrai dire. C'est vraiment un autre métier, une autre grammaire aussi. Et je pense que vraiment, la fiction permet une chose formidable, c'est l'identification aux personnages. Parce que quand on écrit un film, on construit des personnages justement pour qu'ils aient cette vertu d'identification, pour qu'ils puissent, à certains endroits, même si les parcours des personnages ne nous parlent pas directement, nous parler quand même.
Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme.
Et elles font quoi, du coup, les patientes, sinon on ferme ?
Il faut qu'on devienne inévitable. On va pas se laisser faire, croyez-moi.
Et c'est notamment pour ça que moi, mes personnages, ils ont toujours beaucoup d'humour. Parce que je suis assez persuadée que quelqu'un qui nous fait rire, on a envie de le suivre au bout du monde. La fiction, pour ça, c'est magique.
Vous avez le droit de le dire.
Si on veut qu'elle puisse tout nous dire, faut qu'on ait l'air capable de tout entendre.
Et puis quand ça marche pas, on va se brûler la gueule.
Et du coup, vous faites quoi ce soir ?
La Maison des Femmes souffre un peu du syndrome du film vampirisé par son propre sujet et qui le ferait devenir parfois plus important et réussi pour ce qu'il montre et décrit que sur sa forme elle-même, mais il a justement le grand mérite de mettre en lumière une structure devenue indispensable en France et d'offrir de belles scènes d'humour malgré la gravité de certaines situations. Vous pouvez aussi aller voir Allah n'est pas obligé, film d'animation de Zaven Najjar d'après le livre d'Amadou Kourouma sur un enfant soldat au Liberia. Dans un tout autre genre, le film anglais Pillion d'Harry Lytton sur une histoire d'amour toxique dans un gang de motards homosexuels. Et enfin, je vous informe que le festival Best of Doc dure jusqu'au 17 mars, sans doute dans un cinéma près de chez vous, avec les meilleurs documentaires de 2025.
Et vous avez d'ailleurs toutes les infos sur bestofdoc.fr. Merci beaucoup Mathéo. À la semaine prochaine avec de nouveaux conseils ciné.
Et vous, la Mini Cooper, vous l'aimez pourquoi ? Sa conduite, son look so British ? Avec une dose de style et d'innovation en plus, la Mini Cooper électrique reste plus iconique que jamais. Roulez dans une icône, ça n'a pas de prix, surtout à ce prix-là. Profitez de la Mini Cooper E-Finition Blackyard des 320€ par mois. Premier loyer de 320€ après déduction de la prime C2E de 345€. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2026. Si accord BMW Finance selon stock disponible. Conditions sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Et avant le journal, la météo à 6h30 avec Sophie Bria. Sophie, le sud-est sous les nuages.
Oui, comme à l'ouest, hein, des Pyrénées, oui, jusqu'au Pays de la Loire, la Normandie et la Bretagne, avec quelques averses qui circulent un peu plus prononcées dans le golfe du Lion. Et le soleil se trouve où ? À l'est. Et les températures sont douces pour un début mars. Il fait ce matin de 8 à 14. Cet après-midi, il fera de 11 à 20 degrés.
Sophie Bria, merci d'écouter France Info. Il est 6h31.
France Info. Jean-Christophe Martin.
Un nouvel acteur s'invite en marge de la guerre contre l'Iran, la Russie, selon la presse américaine qui cite des sources au Pentagone. Moscou fournit des renseignements à l'Iran pour frapper les intérêts américains. Une aide précieuse alors que Téhéran manque justement de compétences dans ce domaine. À Washington, pour France Info, Franck Matteau.
Des experts militaires ont relevé la précision de certaines frappes iraniennes depuis le début de la guerre. Des infrastructures, des radars américains ont été pris pour cible, des défenses antiaériennes ont pu être contournées, bilan 6 soldats américains tués au Koweït et des dégâts significatifs. D'après plusieurs médias, la Russie a pu jouer un rôle dans ces attaques. Des officiels américains affirment que Moscou aide l'Iran à localiser des cibles. Les satellites russes sont bien plus nombreux et sophistiqués que ceux de Téhéran et le pays a aussi tiré profit de 4 ans de guerre en Ukraine. Cette implication de la Russie répond justement au soutien que lui apporte l'Iran en Ukraine, notamment la fourniture de drones, une manière aussi pour Moscou de rendre la monnaie de sa pièce à Washington, qui appuie Kiev. La Russie ne commente pas ces informations. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, lui, ne les dément pas. Il déclare sur CBS que les États-Unis savent qui parle à qui, tout ce qui ne devrait pas se produire, en public ou en coulisses, ajoute-t-il, est dénoncé et combattu avec force.
Franck Mathevon à Washington pour France Info. Après une semaine de guerre en Iran, l'armée israélienne annonce ce matin qu'elle lance des frappes de grande envergure sur Téhéran. Annonce faite après la détection d'une nouvelle salve de tirs de missiles iraniens en direction d'Israël. Et ce matin, des explosions sont aussi entendues à Jérusalem, Dubaï et Manama. L'agence de notation Fitch maintient la note de la dette souveraine de la France à A+, avec une perspective stable, en soulignant la taille et la diversification de son économie. Fitch, qui avait en septembre dernier abaissé, au contraire, d'un cran la note de la France. Et le rappeur Naps est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Nabil Boukobza, de son vrai nom, avait été condamné en février en première instance à 7 ans de prison avec mandat de dépôt pour un viol commis en 2021. Ses avocats soulignent que dans l'attente du procès en appel, il demeure présumé innocent. France Info, il est 6h34 et c'est l'heure du sport.
France Info Sport, avec le Schneider Electric Marathon de Paris. Courons ensemble vers un avenir plus propre.
C'est parti pour les Jeux d'hiver paralympiques de Milan-Cortina. Après la cérémonie d'ouverture hier, les premières épreuves ce matin du paraski alpin avec la descente à partir de 9h30, avant le para-biathlon avec le sprint à la mi-journée. C'est midi pour les catégories des Français. L'objectif affiché de la délégation tricolore, c'est de faire aussi bien qu'à Pékin il y a 4 ans, c'est-à-dire le top 4. Marie Bochet est chef de la délégation française tricolore et elle-même octuple championne olympique.
Je pense qu'on peut partir dans cet objectif-là en tête. On a une délégation resserrée, comme souvent, mais très compétitive. Vraiment, on a des athlètes, soit qui découvrent les Jeux pour la première fois et donc qui n'ont pas forcément encore eu cette opportunité de rencontrer ces médailles et pourtant qui nous prouvent déjà de très belles choses sur le circuit international. Et d'autres athlètes qui étaient là à Pékin et qui ont vraiment explosé en termes de niveau. Donc, c'est une délégation qui va, je pense, nous offrir de belles émotions et en tout cas qui part dans ces Jeux avec beaucoup d'ambition.
Mais cette année, à Milan-Cortina, il y a, et on en a parlé ces dernières semaines, la réintégration annoncée des Russes et des Biélorusses qui concourront pour la première fois sous leur propre couleur, pour la première fois depuis Sochi en 2014. Ils étaient sous bannière neutre à Pyeongchang et pas du tout présents il y a 4 ans. Est-ce que Marie, ça peut avoir une incidence sur l'objectif de la délégation tricolore, cet objectif de top 4?
Oui, effectivement, la présence des Russes et Biélorusses n'est pas anodine sur différents sujets, mais notamment sur la performance de nos athlètes, parce que c'est des athlètes qui sont très compétitifs. Vraiment, on a des profils qui trustaient vraiment les premières places. On les a retrouvés sur les courses de sélection pour ces Jeux et ils savent encore répondre présent. Ils ont continué à s'entraîner. Donc voilà, effectivement, nous notamment, je pense à l'Alpin, je pense à Varvara qui était là déjà en 2022, contre qui je concourais, voilà, qui va venir un petit peu chatouiller Aurélie Richard sur notamment les épreuves techniques. On a Alexei Bugaïev qui, lui, est dans la catégorie homme debout, qui va venir un petit peu bousculer les classements, je pense, et donc forcément dans le spectre de nos Français, parce que pour certains, sont dans nos catégories.
On a parlé des Russes de retour. Il y a aussi, peut-être, il faut le noter, les Chinois, très nombreux il y a 4 ans et plutôt compétitifs encore.
Oui, effectivement, les Chinois, ils nous ont surpris avec une très grosse délégation sur 2022. Ils sont arrivés très forts sur Pékin. Et donc, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont toujours très forts. Mais c'est vrai que c'est des adversaires qui ne sont pas forcément les plus connus de nos athlètes. Et ça, c'est jamais évident. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de tous bien se connaître en général sur les circuits. Et ça va être des concurrents, assurément.
Et quand vous parlez, Marie, de se préparer justement à ces Jeux paralympiques et aux changements par rapport aux manches de Coupe du Monde qu'il peut y avoir pendant la saison. Est-ce que la présence en nombre, a priori, du public est quelque chose sur lequel nos parathlètes doivent et ont dû travailler ces derniers mois pour s'habituer à être sous les feux des projecteurs?
Oui, effectivement. En parasport, on a vraiment peu l'habitude d'avoir du monde en bas des pistes. Et c'est vrai que c'est vraiment la spécificité des Jeux paralympiques. On a envie de bien faire et des fois, on en perd un peu notre objectif personnel pour satisfaire celui de nos proches. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est des choses qu'ils ont en tête, qu'ils ont travaillé en préparation mentale, notamment avec les différentes personnes qui les accompagnent.
Donc, 15 athlètes, dont 2 guides qui seront présents sur ces Jeux paralympiques de Milan-Cortina. Alors, évidemment, on ne peut pas tous les citer et a priori, tous sont sur le papier médaillables. Mais quelles sont, selon vous, Marie, nos grosses chances de médaille et surtout dans les heures à venir pour les premières épreuves qui vont commencer dès ce matin?
Il y a déjà les deux deux patrons qui seront du coup c'est des sites différents, je pense à Benjamin Davier et Arthur Bochet, qui sont quand même expérimentés, qui sont multimédaillés, donc ont vraiment cette expérience de la performance dans ces événements là
et qui ont l'expérience
Arthur Bochet en ski alpin et Benjamin Davier en para ski de fond, para biathlon. Je pense à Aurélie Richard qui peut ouvrir potentiellement ce compteur de médailles en descente, parce que ça va être la première à s'élancer sur une compétition pendant ces jeux, qui a gagné une Coupe du Monde sur la piste de Cortina devant moi. Donc voilà, Aurélie, elle adore cette piste et elle a vraiment cette envie de réussir ses premiers jeux. Elle nous fera vivre de très belles émotions et surtout elle saura les partager. Et puis en snowboard, on a Cécile Hernandez qui est notre porte-drapeau, qui a l'habitude de monter sur les podiums à chaque fois qu'elle participe à des jeux, et donc je pense pas qu'elle nous fera mentir cette fois encore. Et c'est compliqué pour moi d'en citer que quelques-uns,
nos premiers médailles.
Marie Bochet, chef de la délégation française tricolore aux Jeux d'hiver de Milan Cortina, elle répondait sur France Info à Clara Lecoq-Réal. Il est 6h39. Dans les prochaines minutes, le choix de France Info, le récit d'un cauchemar, celui des très longs mois vécus en prison par le chercheur français Laurent Vinatier, accusé d'espionnage puis relâché. Et d'abord, on retrouve l'envoyé spécial de France Info au Liban.
France Info, 6h-7h, Jean-Christophe Martin.
Dans le sud du Liban, les frappes israéliennes et les tirs de roquettes du Hezbollah continuent de se répondre. Plusieurs villages libanais ont encore été touchés hier. Tout le secteur est frappé d'un ordre d'évacuation, mais des habitants restent sur place, notamment dans les villages chrétiens. Exemple avec l'envoyé spécial de France Info, Étienne Monin, à Marj Ayoun, c'est à une dizaine de kilomètres de la frontière israélienne.
Ce qui frappe quand on arrive à Marj Ayoun, même si les rues sont quasiment vides, c'est qu'on ne se sent pas dans l'épicentre, mais plutôt sur un mirador qui permet d'observer à quelques kilomètres une colline sur laquelle se trouve un village qui est quasiment l'épicentre des combats dans le sud du Liban.
This is Israel.
Et l'une des vigies dans ce village, c'est Loftala Daher. Il est correspondant pour la chaîne libanaise LBC. Il passe ses journées sur le toit de sa maison pour filmer.
Hier, j'ai vu un tank. Et ce matin aussi. Je peux vous montrer.
Ce journaliste fait partie des derniers habitants du secteur. Autour de lui, la rue est assez vide. Il est chrétien. Il estime que cette guerre n'est pas la sienne, qu'il n'est pas menacé.
On n'est pas des cibles. On est en sécurité. Les Israéliens savent tout. On n'est pas impliqué dans cette guerre.
Mais ces chrétiens ne savent pas trop sur qui compter. Les Israéliens sont au bout du village. L'armée libanaise donne des signes de fébrilité. Les habitants s'organisent alors pour éviter d'être entraînés dans la guerre par le Hezbollah. Anna Daher dirige l'une des municipalités du secteur.
On forme des groupes la nuit qui surveillent tous les quartiers du village et toutes ses entrées. On les a toutes fermées d'ailleurs. Il n'y a plus que les routes principales qui restent accessibles. Le but est de savoir exactement qui entre et qui sort pour éviter des confrontations avec les groupes armés, pour leur interdire d'attaquer à partir de nos terres.
Hier, 200 personnes se sont rassemblées dans la paroisse Notre-Dame de la Délivrance. Les chefs des différentes églises avaient un message à faire passer, dit le vicaire Antonio Sfara.
L'église défend la position que tout le monde doit rester dans son village, rester ancré dans l'histoire, dans la géographie aussi. Ce sont nos paroisses, ce sont nos églises, c'est notre histoire.
Ces chrétiens se considèrent comme le dernier rempart face au pouvoir du Hezbollah dans ce secteur. Ils craignent de tout perdre s'ils abandonnent le terrain, explique Jacqueline Caillé.
Si on va vider les maisons, les villages, alors Israël et Hezbollah vont être ici dans les lieux vides et faire des combats. Par conséquent, on va être détruit. Tous les maisons, tous les biens, tous les terrains vont être détruits.
Ces derniers chrétiens du Sud pratiquent donc une forme de résistance passive. Ils sont prêts à rester, y compris sous occupation israélienne.
Étienne Monin, l'envoyé spécial de France Info au Liban, avec Martin Troadec pour les moyens techniques. Dans les prochaines minutes, le choix de France Info, le témoignage de Laurent Vinatier, ce Français qui a passé un an et demi dans les prisons russes. Ce sera après l'info en une minute.
Et vous, la Mini Cooper, vous l'aimez pourquoi ? Sa conduite, son look so British ? Avec une dose de style et d'innovation en plus, la Mini Cooper électrique reste plus iconique que jamais. Rouler dans une icône, ça n'a pas de prix, surtout à ce prix-là. Profitez de la Mini Cooper E-Finition Blackyard des 320€ par mois. Premier loyer de 320€ après déduction de la prime C2E de 345€. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2026. Si accord BMW Finance selon stock disponible. Conditions sur mini.fr. Pensez à covoiturer.
Groupama. Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour les pros.
Mais vous savez, Cerise, mon équipe, c'est comme ma famille. J'aimerais qu'ils aient une complémentaire santé qui les protège mieux.
Je comprends, Marc. Et Groupama est là pour vous simplifier la vie.
Mais je cours partout, j'ai pas le temps de me déplacer en agence.
C'est nous qui venons à votre rencontre. On gère les démarches, on accompagne vos salariés et on met en place le contrat personnalisé.
C'est parfait, ça. Merci, Cerise.
Groupama. Groupama, toujours là pour moi.
Conditions et limites des garanties se reporter au contrat. Info sur groupamapro.fr.
S comme S-Line, S comme surclassement. Jusqu'au 31 mars, la finition iconique Audi S-Line est offerte sur une large sélection de modèles. Plus qu'une finition, une signature emblématique et sportive. Profitez-en dès aujourd'hui sur l'Audi A3 Sportback hybride rechargeable ou l'Audi Q6 Citroën. Réservez votre essai personnalisé sur audi.fr.
Finition S-Line offerte pour tout achat ou location longue durée d'un modèle éligible dans le réseau participant. Voir conditions sur audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
France Info, 6h-7h.
L'essentiel de l'actualité à 7h moins le quart, c'est avec Philippine Thibaudot. Le premier titre, la guerre au Moyen-Orient qui touche désormais l'Irak.
Des drones ont visé l'aéroport de Bagdad. D'autres ont été interceptés par les forces de la coalition menée par les États-Unis à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Des débris sont tombés à proximité d'un hôtel. Un coup de fil aussi entre Emmanuel Macron et le président irakien, l'un exprimant à l'autre sa pleine solidarité et son soutien. La guerre en Ukraine éclipsée pendant un temps, mais les bombardements se poursuivent. Au moins 4 personnes sont mortes et 10 ont été blessées dans une frappe russe à Kharkiv, dans l'est du pays. La France garde son A+. L'agence de notation Fitch a maintenu sa note, soulignant son économie solide malgré une dette publique élevée. Le rappeur Naps Romy en liberté sous contrôle judiciaire avant son procès en appel pour viol. Il a été condamné le mois dernier à 7 ans de prison avec mandat de dépôt. Et puis la défaite cinglante du PSG hier face à Monaco, 3-1. Pas de quoi rassurer les Parisiens avant leur rencontre mercredi avec Chelsea en Ligue des Champions de foot. La suite du programme en Ligue 1 aujourd'hui, Nantes-Angers à 17h, Auxerre Strasbourg à 19h et Toulouse OM à 21h.
France Info.
Le choix de France Info ce matin, c'est l'incroyable témoignage de Laurent Vinatier. Le récit d'un cauchemar, celui vécu par ce chercheur français en Russie. Il a passé 1 an et demi en prison pour rien. Après des négociations diplomatiques, Vladimir Poutine l'a finalement gracié il y a 2 mois. Il avait été condamné à 20 ans de prison pour espionnage et il revient sur ce choc avec Paul Larouturou dans Pour Info, l'interview YouTube de France Info. Extrait.
On me rase la tête tout de suite. On me met une blouse grise, comme tous les prisonniers. Donc c'est comme dans les films, là. Et comme je ne sais pas ce qui va se passer, je sais juste que je vais prendre 20 ans, mais bon.
À ce moment-là, vous perdez espoir?
Mais bien sûr, à ce moment-là. Mais même, je perds tout à ce moment-là. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je n'existe plus. Quand on est démonté psychologiquement, on extrapole des trucs, mais on perd le contact avec la réalité, en fait. J'étais plus dans la réalité.
Vous devenez parano?
Oui, extrêmement parano. On perd contact avec la réalité. Je n'étais plus et je ne serai plus dans la réalité jusqu'au 8 janvier 2026, où j'entre à l'Effort-aux-Vaux.
Alors, l'Effort-aux-Vaux, c'est une légende. Rien que le mot, c'est terrifiant.
Quand c'est terrifiant.
Ce qui s'est passé à l'Effort-aux-Vaux,
voilà,
pour les Russes.
Exactement.
C'est un centre de torture, on peut dire le mot. Elle a été documentée.
Oui, oui, ben c'est les KGB, voilà. Et tout le monde n'a pas été torturé, je suppose, qui sont passés. Mais
Staline.
Ouais, mais il y a d'autres. Après, c'est devenu là, c'est la prison pour les cas sérieux. Et ben, c'est les opposants politiques, c'est les traîtres, et qu'on russe y compris. Ce sont les hauts fonctionnaires qui ont fait des bêtises. Donc c'est les cas sérieux. L'absurde, ça nourrit la curiosité. Il est arrivé un moment où en prison à l'Effort-aux-Vaux, tout ce qui me faisait tenir, c'était mais qu'est-ce qui va arriver ce week-end, quoi. Et ça devient absurde. C'est-à-dire que j'avais des animaux domestiques à l'Effort-aux-Vaux. Il y avait une mouche qui était dans la cellule, qui partait pas. Donc, je regardais où elle était posée le soir, quoi.
Il lui a donné un nom?
Non, mais je l'appelle la mouche.
Okay.
Après, il y avait des pigeons qui venaient sur le rebord de la fenêtre. Eux, j'aurais donné des noms.
Comment ils s'appelaient?
Glouglou.
Ok.
Voilà. Et chaque envol de pigeons, s'ils s'envolaient à ce moment-là, c'est que ça veut dire quelque chose. Et hier, ils n'étaient pas envoyés comme ça. On est en dehors de la réalité. Et c'est comme si on n'existait plus, en fait, dans votre réalité.
Et là, dans votre tête, vous êtes parti pour 20 ans. Sauf que pas du tout, parce que le président Poutine parle de vous. Et puis, ça va aboutir le 8 janvier 2026 à ce qu'il signe un décret, Vladimir Poutine, de votre libération.
Le 8, c'est un peu une journée qui commence comme d'habitude. On me dit, bon, voilà, tu vas pouvoir aller en promenade à 10h30. Et puis, 30 minutes après, la même gardienne revient et dit, bon, finalement, tu vas pas aller en promenade. Dans 5 minutes, tu dois faire préparer toutes tes affaires et tu viens avec moi.
Là, à ce moment-là, vous vous dites, c'est la fin du monde, je vais dans une colonie pénitentiaire. Ou au fond de vous, vous vous dites, ah, ça sent bon, je vais être libéré.
Je me dis d'abord, on va me changer de cellule. Mais je me dis, ah, c'est possible que ce soit autre chose. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Et donc, je prends tout. Le consul avait envoyé 13 kilos pour Noël. Donc, on n'avait pas tout mangé. J'avais une énorme bûche qu'on n'avait pas touchée. J'avais d'énormes paquets de thé. J'avais en fait des jus d'orange. J'avais du liquide vaisselle, des réserves. J'avais des serpillères. Je prends tout. Les éponges, du gel douche. Tout. Okay. Je mets tout ça dans le sac. Et j'avais de la bouffe. Et mon co-détenu, il était content de me voir partir. Je sais pas pourquoi. Mais il était content de me voir partir. Et il m'aide. Il dit, tiens, mets ça dans. Donc, il me donne des sacs. Et il m'aide à mettre tout. Et je ne sais pas encore pourquoi. Et je vois la gardienne qui pousse, quoi. Allez, 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 allez. Et puis, donc. Et donc, on sort vite fait, et puis je laisse mon matelas. Donc, normalement, quand tu pars, surtout que tu prends ton matelas avec toi, hein, un gros matelas, lourd, etc. Et mon collègue de truc, il dit, mais prenez le matelas aussi. Donc, il jette le matelas au milieu du couloir. Et je sors et claque la porte. Et tu laisses le matelas pour l'instant, tu prends tout ce que tu veux, et on va en bas. Donc, moi, j'ai pas encore confiance, là. Mm. Donc, je prends tout, et je vais en bas. L'un des vice-directeurs de la prison arrive, okay. Et ils me font signer des papiers disant que je n'ai rien contre la Russie. Et puis, et après, ils me lient la grâce.
La grâce présidentielle.
La grâce présidentielle.
De Vladimir Poutine.
Ouais.
Et vous ressentez quoi à cet instant T?
Il faut que je dise merci, un petit peu quand même. Donc je dis merci, puis je reste très sobre. Et puis je me demande comment ça va se dérouler. Est-ce que je vais aller à l'ambassade? Au fond de moi, je me dis que ce nouvel individu qui a émergé va enfin pouvoir reprendre un petit peu contrôle de sa vie.
Laurent Vinatti avec Paul Larouturou, l'interview intégrale à retrouver sur YouTube dans l'émission Pour Info de France Info. Il est 7h10, dans 5 minutes le billet science week-end, les découvertes de Bill François. D'abord, le portrait d'actu de France Info. Le portrait d'actu ce matin, celui du secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, qui déclarait cette semaine que les Iraniens sont cuits. Un discours guerrier dont l'ancien militaire et ancien animateur télé est coutumier. Et c'est le portrait d'actu signé pour France Info, Anne Lamotte.
Good morning.
Bonjour.
And welcome to the War Department.
Bienvenue au département de la guerre.
Because the era,
l'ère du département de la défense,
Department of Defense
est révolue.
Is over.
Ça, c'est Pete Hegseth, en septembre dernier, sur la base militaire de Quantico, dans l'État de Virginie. Le secrétaire à la Défense y prononce un discours devant un parterre de haut gradé. Son obsession, l'idéologie woke, qui, c'est son analyse, pourrit l'armée des États-Unis depuis des décennies. Et tout ça, pour lui, il le martèle, c'est de la foutaise.
No more identity months.
Terminer les mois de l'identité. Terminer les bureaux chargés des programmes diversité, égalité, inclusion.
Dudes. In dresses.
Plus de mecs en robe,
no more climate
plus de culte
change
du changement climatique,
no division,
fini les divisions, les distractions,
delusions,
les délires de genre,
no more debris.
Plus de déchets.
We are done with that shit.
On veut plus de cette merde.
Dans l'armée des États-Unis, Pete Hegseth n'accepte pas non plus les gros, c'est le mot qu'il emploie. Quant aux femmes, il est ici dans le podcast de Sean Ryan, un ancien militaire.
Honnêtement, on ne devrait pas avoir de femmes au combat. Ça ne nous rend pas plus efficaces, pas plus létales, et c'est plus compliqué. L'histoire nous montre qu'à ces postes-là, les hommes sont plus compétents.
Pete Hegseth se souvient bien de Memorial Day dans son enfance. Tous les ans, ce jour-là, pour rendre hommage aux soldats morts au combat, il va voir la parade à Wanamingo, une toute petite ville de l'État du Minnesota. Les vétérans qui défilent en brandissant le drapeau, l'admiration des gens autour de lui, ça reste gravé dans son esprit. Plus tard, à l'université, il comprend qu'il ne deviendra pas basketteur professionnel, alors il se tourne naturellement vers l'armée. Il a 21 ans quand il intègre le programme de formation des officiers de réserve. Il part en mission à Guantanamo, en Irak, en Afghanistan. Il raccroche en 2021. Avec beaucoup de tatouages. Deux, surtout, font polémique. Sur son bras droit, on peut lire ces mots en latin. Deus vult, Dieu le veut. C'est le cri de guerre des premiers croisés. Et sur sa poitrine, une croix de Jérusalem. Des symboles du Moyen-Âge repris par certains groupes d'extrême droite. Pete Hegseth explique qu'il est juste chrétien, fervent. il y a 2 ans sur Fox News, la chaîne de télé préférée des conservateurs, où il est devenu animateur. Il prie
And here we go.
En direct.
Ready your heart.
Préparez vos cœurs.
Close your eyes,
fermez les yeux. Baissez la tête.
Oh, Jesus, we surrender
oh Jésus,
to you.
Nous nous abandonnons à toi.
Amen.
Amen.
Pete Hegseth doit avoir beaucoup à confesser. Entre 2007 et 2016, il dirige 2 associations de vétérans qu'il doit quitter. Trop de dettes et trop de beuveries. Gênant pour quelqu'un nommé secrétaire à la défense des États-Unis, chef du Pentagone. En janvier 2025, quand le Sénat doit confirmer sa nomination, certains sénateurs, comme Mark Kelly, le passent au grill.
Summer 2014 in Cleveland,
été 2014 à Cleveland, drunk, vous apparaissez in public, ivre en public avec l'équipe de votre association.
With the CBA team, anonymous smears.
Diffamation anonyme.
Décembre 2014, à la fête de Noël de l'association, vous êtes tellement sous qu'on doit vous porter jusqu'à votre chambre d'hôtel. Vrai ou faux ?
Diffamation anonyme.
Il nie aussi avoir agressé sexuellement une femme en 2017 dans une chambre d'hôtel en Californie. Il assure que la relation était consentie. Ça s'est réglé en accord financier. Et pourtant, malgré tout cela, Pete Hegseth obtient le feu vert du Sénat. De justesse, mais il l'obtient. Janvier 2025, il prend donc ses fonctions au Patagone. Et seulement 2 mois plus tard, scandale. On apprend qu'il a partagé sur Signal, une messagerie publique, des informations ultra sensibles, le planning détaillé d'attaques prévues sur le Yémen. Mais c'est encore une cabale, s'insurge-t-il.
Voilà ce que font les médias. Ils prennent des sources anonymes, d'anciens employés aigris, et ils font croire que c'est de l'info. Ils essaient de vous anéantir, de ruiner votre réputation, mais ça ne va pas marcher avec moi.
Ce jour-là, Pete Hegseth est à la Maison-Blanche avec ses enfants pour aller chercher les œufs de Pâques. Pendant ce temps-là, le porte-parole du Pentagone, qui a démissionné, avoue publiquement que sous sa direction, le bâtiment est plongé, je le cite, en plein chaos.
Le portrait d'actu du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, signé Anne Lamotte, a retrouvé sur franceinfo.fr. Et à 7h05, le billet Science Week-end de France Info, Bill François avec Benjamin Fontaine.
Et c'est l'heure de faire une nouvelle découverte scientifique maintenant grâce à vous, Bill François. Bonjour Bill.
Bonjour.
Et on va prendre un coup de froid aujourd'hui. On remonte 700 millions d'années en arrière. À cette époque, la planète est quasiment recouverte de glace, mais des chercheurs anglais viennent de découvrir qu'il y avait quand même des saisons, des climats différents, et donc la Terre était habitable.
Et ce, malgré des conditions extrêmes. C'est arrivé 3 fois dans l'histoire de la Terre. 3 fois où des glaciations ont fait de notre planète bleue une planète blanche, surnommée la Terre boule de neige. Mmh. La dernière fois, le bien nommé cryogénien a été causé par le phénomène inverse de notre réchauffement climatique actuel. Aujourd'hui, on a trop d'émissions de CO2. À l'époque, des éruptions volcaniques avaient craché des masses de basalte et ces pierres ont piégé tant de carbone que les effets de serre ont diminué, refroidissant l'atmosphère. Plus on avait de glace, plus la Terre était blanche, et comme le blanc, ça renvoie à la chaleur, et on appelle ça l'effet d'albédo, eh bien la planète s'est refroidie jusqu'à être totalement couverte d'une banquise d'une épaisseur d'1 kilomètre des pôles à l'équateur.
Ça veut dire que toute la planète était occupée par les glaces à ce moment-là ?
Toute, non. Quelques irréductibles formes de vie résistaient encore et toujours à l'abri dans de petites oasis. Oui, j'ai vérifié, oasis est bien un mot féminin.
Merci.
On pensait jusqu'à présent que tout fonctionnait quand même au ralenti, une sorte d'engourdissement hivernal. Mais les géologues britanniques viennent de démontrer le contraire. En étudiant des roches sédimentaires écossaises formées à cette époque, ils ont révélé que le climat évoluait en fait normalement malgré les glaces. Il y avait des saisons, des cycles sur plusieurs années et même des oscillations de type El Niño, comme de nos jours. Des calculs informatiques ont montré qu'il suffisait de moins de 15% de la surface de la planète où la glace avait fondu pour maintenir la connexion entre l'atmosphère et les océans, et donc les cycles des saisons et de la vie.
Oui, cette période de boule de neige aurait même aidé à l'évolution de la vie.
C'est qu'en fondant, toutes ces glaces ont apporté des nutriments à l'océan, favorisant l'émergence de formes de vie complexes, à commencer par des éponges, les tout premiers animaux pluricellulaires. Cette histoire ancienne nous renseigne donc non seulement sur le climat, mais aussi sur les origines des animaux. La science souhaite donc à cette boule de glace de continuer à faire fondre nos doutes pour nous mettre sur la piste enneigée de nouvelles découvertes.
Je vous donne donc votre première étoile, Bill, pour cette découverte et pour réécouter le billet science. Un seul endroit, l'appli Radio France. À demain.
Bill François avec Benjamin Fontaine.
BMW. 3 notifications, 10 posts, 5 alertes.
Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M Sport, prenez le volant de votre BMW dès 290€ par mois, sans apport.
Offre valable pour une BMW 1 16 M Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers si l'accord BMW Finance. Conditions sur BMW.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Info Météo avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Et avant le journal de 7h sur France Info, la météo avec Sophie Bria. Sophie, les nuages et la pluie qui circulent sur la Méditerranée aujourd'hui.
Eh oui, le ciel est plus chargé des Pyrénées-Orientales au contrefort du Massif Central ce matin. Ce mauvais temps se déplace légèrement cet après-midi entre l'Hérault et les Bouches-du-Rhône jusqu'à la Lozère et le Gard. À l'ouest de la Bretagne, au Cotentin et au Pays de la Loire, ce matin, nuages et averses et brouillards aussi circulent, hein, comme sur les Hauts-de-France. Et ce ciel couvert s'installe cet après-midi tout le long des côtes de la Manche, mais vraiment près des côtes, hein. Jusqu'au pays nantais et en descendant du Poitou-Charentes aux Pyrénées jusqu'à l'ouest du Massif central, quelques éclaircies apparaissent. Dans l'après-midi, une belle luminosité revient même de l'estuaire de la Gironde au Pays Basque jusqu'aux plaines toulousaines et le soleil légèrement voilé se trouve à l'est entre la Normandie et les Alpes jusqu'au Grand Est. Et vous l'avez remarqué, hein, Jean-Christophe, la douceur s'est installée et vous avez ce matin de 8 à 14 degrés au thermomètre. Cet après-midi, il fait de 11 à 20 degrés, 20 degrés à Lyon et Bourges, 19 degrés à Paris et Reims. Nous sommes quand même de 4 à 7 degrés au-dessus des valeurs de saison. 18 degrés à Bordeaux, Nantes et Marseille, 17 à Nice, 16 à Lille, 14 à Bayonne, 14 à Béziers également et 12 degrés à Saint-Malo.
Sophie Bria, il est presque 7h, c'est le 7-10 de France Info et jusqu'à 10h, c'est Thomas Séchier qui nous accompagne. Bonjour Thomas.
C'est moi, effectivement. Bonjour Jean-Christophe Martin, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, ravi d'être à vos côtés en ce samedi matin avec toute l'équipe. Sophie Bria qui reste bien évidemment dans ce studio. Bonjour Sophie.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Pour la météo, Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour.
Pour le journal de 7h dans un instant et Philippine Thibaudot. Bonjour Philippine.
Bonjour Thomas.
Pour l'info en une minute tout au long de cette matinée, on va bien sûr faire le point tout de suite sur la situation au Moyen-Orient, la guerre qui se poursuit. Et parmi nos invités, ce matin à 7h40, le directeur d'une association qui lance un appel aux dons de médicaments pour le Liban.